Donc nous allons maintenant poursuivre avec le sujet suivant. Notre sujet principal qui va donc porter sur Wikipédia, l'encyclopédie libre. Donc je vais représenter nos invités. Donc Pierre-Yves Baudouin, président de Wikimedia France. Rebonjour Pierre-Yves.
Rebonjour.
Nadine Lelirzin, secrétaire de Wikimedia France. Rebonjour Nadine.
Bonjour.
Alors, Wikipédia, on peut supposer que la plupart des personnes qui écoutent l'émission connaissent de nom. On peut même supposer que la plupart ont été déjà sur Wikipédia rechercher des informations, que ce soit pour faire son devoir d'école, quitte à copier-coller sauvagement des pages, ou simplement pour avoir la réponse à la question qu'on se pose à midi à table, par exemple, et on sort le téléphone et on regarde sur Wikipédia. Donc le but de l'émission, c'est d'expliquer un peu plus ce qu'est Wikipédia, et puis surtout d'expliquer que Wikipédia, c'est pas simplement un site web que l'on peut consulter, que l'on peut lire, c'est un site web qui a notamment un bouton absolument magique dont on va parler tout à l'heure, qui est le bouton « Éditer ». Et tu as tout à fait raison. Ça dépend effectivement des types de wiki, mais on expliquera ce qu'est un wiki. Donc le bouton modifier sur lequel une personne peut appuyer et ainsi contribuer à Wikipédia, mais on va en reparler. Alors première question, un petit point sur l'historique de Wikipédia qui fête donc aujourd'hui ses 18 ans, donc Wikipédia est majeur. Pourquoi à l'origine ce projet a été lancé et par qui ? Quel était le problème à résoudre en fait ?
Alors sur ce point exact, j'ai pas vraiment de réponse, mais en fait il faut se remettre dans le contexte. Donc on est Wikipédia a vu le jour le 15 janvier de 2001, a été créé par deux Américains, Jimmy Wales et Larry Sanger. Mais en fait leur idée initiale était de créer Nupedia, qui avait vu le jour un an avant. C'était une encyclopédie assez classique, assez traditionnelle. Ça ressemblait à ce qu'on a l'habitude de connaître, ce qu'on avait l'habitude de connaître, Universalis et Britannica, sauf que là, c'était sur Internet. Mais c'était donc les rédacteurs de l'encyclopédie étaient triés sur le volet grâce à leur CV.
Il y avait une sorte de cooptation à l'époque sur Gnupedia, en fait, pour pouvoir contribuer.
Oui. Et donc, un an après, parce que ce projet vivotait, je crois que c'est Larry Sanger qui a entendu parler des wikis, donc des sites facilement modifiables par tout à chacun et par n'importe quel internaute, notamment sans avoir de connaissances en informatique, et qui a convaincu Jimmy Wales de se lancer dans l'aventure et donc de créer un peu en annexe, en projet annexe à Nupedia, le véritable projet, Wikipédia, qui servait un peu de bac à sable, de brouillon, pour la véritable encyclopédie. Donc tous les internautes pouvaient proposer des articles sur Wikipédia et puis après ils étaient validés par les sachants, par les...
Ah d'accord, donc à l'origine en fait Wikipédia c'était un bac à sable comme tu le dis pour que les gens en gros s'amusent, mettent des choses, fassent des brouillons et qu'ensuite le comité d'experts quelque part et d'expertes valide pour mettre sur Gnupedia. Donc c'était ça.
Voilà, donc
je ne savais pas.
C'était pas très disruptif, donc il y avait quand même une élite qui sélectionnait les articles, mais en fait, très vite, Wikipédia s'est mis à rédiger des milliers d'articles et de qualité, et donc en fait a tué le père. Et donc c'est 18 ans après, c'est le seul projet qu'on connaît et plus personne n'a entendu parler de Nupedia.
Et plus beaucoup de monde a entendu parler des autres encyclopédies qui pouvaient exister. La partie clé peut-être qui a permis cette explosion de Wikipédia, c'est justement le transfert de modèle, d'un modèle où en fait les personnes qui pouvaient écrire étaient cooptées avec un comité de validation à l'ancienne machin, etc., à un modèle où en fait n'importe qui peut donc contribuer, et avec l'explosion aussi d'Internet. Un petit peu comme d'ailleurs dans le monde du logiciel libre, où en fait le logiciel libre s'est considérablement développé à partir du moment où il y a eu la démocratisation d'Internet, et en 2001, Internet était de plus en plus accessible par toute personne. Donc ces deux choses-là, finalement, de plus en plus de personnes qui ont des choses à partager en commun, et des outils qui leur permettent facilement de modifier donc, des pages et de contribuer. Comme tu l'as dit tout à l'heure, la base de Wikipédia en termes de logiciel, donc c'est un logiciel qui s'appelle MediaWiki, mais il en existe plein d'autres. Donc un wiki, comme tu l'as dit, c'est un site web sur lequel une personne peut modifier directement et avec certaines mots-clés peut mettre du texte en gras, en italique, etc. Donc comme on le fait sur un traitement de texte classique, sauf que là c'est en ligne et sauf que là c'est de façon collaborative. C'est bien ça ?
Oui, c'est exactement ça. Et il y a quelques fonctionnalités en plus, notamment la gestion des révisions sur Wikipédia qui s'appelle l'historique, qui permet tout à chacun de voir l'article depuis sa création. Même des articles qui ont été créés il y a 18 ans, par exemple, vous pouvez voir au départ, il y avait un paragraphe ou même une seule phrase. Et puis maintenant, il peut faire 40 pages.
D'accord. Alors, outre le fait que ce soit un wiki, il y a un point essentiel, c'est que c'est diffusé sous licence libre. Ce qui n'était... Alors, je ne sais pas si c'est le cas de Gnupedia, mais je ne me souviens plus. Mais en tout cas, ce qui n'est pas le cas des encyclopédies qui existaient à l'époque. Donc, le fait que ce soit sous licence libre apporte clairement quelque chose. Nadine, le Lirza, est-ce que là-dessus, c'est pour toi un point essentiel, le fait que l'encyclopédie soit disponible sous une licence libre? Donc, en l'occurrence, c'est Creative Commons, partage à l'identique.
Oui, c'est indispensable. Ça permet une véritable diffusion sans arrêt. Quand on contribue sur Wikipédia, on a le premier message qui apparaît qui vous dit que les contributions que vous allez faire vont être partageables par tous, même à des buts commerciaux. Enfin, la licence est libre, c'est-à-dire ça ne concerne pas le droit d'auteur, bien sûr. Un auteur est toujours propriétaire de son œuvre de l'esprit. Mais elle est librement réutilisable, elle est librement copiable. Il suffit de citer la source, de diffuser sous la même licence, bien sûr. On ne va pas s'approprier un travail qui est libre pour ensuite lui mettre des droits et se l'approprier dans son coin. Donc c'est l'ouverture vers plus de liberté. Et puis un appui à la créativité, c'est-à-dire on peut vraiment faire ce qu'on veut. Je pense peut-être Wikipédia, mais aussi d'autres projets Wikimedia comme Commons qui accueillent des...
Alors justement, qu'est-ce que c'est que Wikimedia Commons?
Commons, c'est une grande médiathèque.
D'accord.
Qui accueille principalement des photos, mais aussi beaucoup de vidéos maintenant, enfin ça bouge. Et sur Commons, on peut utiliser les photos. On les voit d'ailleurs circuler. Il suffit de citer l'auteur, mais on peut les modifier, on peut les vendre, on peut faire des mash-ups.
Oui, parce qu'en fait, ce qui est important aussi dans ce que tu cites sur Wikipédia Commons, c'est qu'en fait, il y a d'autres projets que Wikipédia, donc Commons, il y en a plein d'autres, hein, on ne va pas tous les citer, mais si vous allez sur Wikipédia, vous les retrouverez. Et Commons donc, permet, quand par exemple on recherche une illustration pour un article, et qu'on souhaite utiliser quelque chose qui est sous licence libre, c'est l'une des sources principales de référence. Ça me fait penser aussi que une façon de contribuer souvent à Wikipédia, c'est de sur les pages qui concernent des personnalités, de proposer des photos sous licence libre, parce que souvent ça manque en fait. Souvent on voit pas la photo et il y a un petit message qui dit une photo sous licence libre serait la bienvenue. Donc ça c'est important et ce succès de Wikipédia et le succès du logiciel libre sont un peu concomitants en termes de temps, de durée. C'est-à-dire c'est comme je disais tout à l'heure, ça arrive à un moment où effectivement il y avait des gens qui ont envie de partager. Les licences libres permettent de partager dans un cadre juridique qui est bien défini et qui permet des réutilisations, y compris commerciales. Donc effectivement, dans Wikipédia, il n'y a pas de restriction à l'usage commercial, ce qui permet aussi le succès, de la même façon qu'il y a ça dans le logiciel libre. Et c'est important de le préciser parce que pour les gens qui pensent aux licences Creative Commons, les licences Creative Commons permettent pour certaines des restrictions commerciales et d'autres pas. Donc Wikipédia a fait le choix de Creative Commons partage à l'identique. Voilà. Donc c'est en gros, vous pouvez partager ce contenu, mais sous les mêmes terme de la licence, vous ne pouvez pas retirer des libertés et vous pouvez le partager quelles que soient les conditions, c'est-à-dire en modifiant, en refaisant un mash-up comme tu le disais, y compris en le vendant par exemple sur un CD, sur un DVD, etc. Et c'est le même choix qu'on a fait dans la radio, toutes nos musiques sont sous ce type de licence.
Alors,
Nadine ?
Très très important, c'est que ça veut dire qu'on ne peut mettre sur l'encyclopédie que quelque chose dont on est l'auteur. On ne peut pas aller piller d'autres auteurs pour mettre leurs textes en ligne et les offrir au monde, même si on pense que ces textes
même
sont
si
merveilleux.
Ouais.
Voilà, exactement.
Alors d'ailleurs, ça me fait penser dans les fondamentaux, dans les principes fondateurs de Wikipédia. Alors, il y en a cinq. Hein. Bon, il y en a certains qu'on a déjà dont on a déjà parlé, le fait que ce soit une encyclopédie, le fait que ce soit publié sous licence libre. Il y en a un dont on n'a pas parlé, mais dont on peut parler éventuellement maintenant, c'est la neutralité du point de vue. C'est-à-dire que les articles ne doivent pas promouvoir un point de vue particulier, mais on doit pouvoir présenter plusieurs points de vue et chacun étant libre de défendre plus ou moins fidèlement ses points de vue. Est-ce que c'est à peu près ça?
Non,
non,
pas ça du tout. Parce que c'est une encyclopédie, c'est pas une tribune.
Ouais, d'accord.
Donc c'est pas que chacun vient défendre ses points de vue. C'est que chaque sujet peut être abordé de différents points de vue.
D'accord.
On ne vient pas défendre les siens obligatoirement. Ouais. On vient dans un esprit encyclopédique, communiquer comment ces sujets ont été traités, sont traités actuellement par les spécialistes, par ceux qui finalement ont autorité pour, plus ou moins autorité pour en débattre.
D'accord.
Donc c'est sur les sujets d'actualité, c'est vrai qu'on peut aussi avoir des contributeurs qui arrivent avec des idées très fortes sur ce qu'ils ont envie de faire passer. Mais les véritables contributeurs, ceux qui sont là depuis longtemps, ceux qui restent, ceux qui vraiment le font dans un esprit de partage de la connaissance, finalement arrivent tous à la même conclusion à un moment, c'est que on est tous là pour la même chose. On peut ne pas être d'accord, on peut travailler, enfin on peut être, je sais pas, par exemple d'extrême gauche et puis travailler avec des gens, peut-être d'extrême droite. Enfin c'est pas, on s'en fout d'ailleurs, c'est pas le débat, c'est pas, on n'est pas là ni pour on ne vend rien en fait. Mais si les gens sont tous de bonne foi, si vraiment leur but c'est de défendre une encyclopédie, de porter à la connaissance des choses le plus qui aident les autres à réfléchir, qui aident les autres à avancer, à se faire une idée d'un sujet, il y a un respect qui s'installe, je dirais, entre contributeurs, peu D'accord. à peu. Et c'est pas leurs idées qui passent, c'est on arrive à un équilibre. Mais attention. Bon, on parle beaucoup de consensus, ce n'est pas non plus une mollesse de point de vue, ce n'est pas quelque chose qui dissout tout le consensus. Le consensus se fait sur une base d'argumentation de la littérature existante, les sources, la discrimination entre les sources aussi. C'est-à-dire une source ne vaut pas une autre. Ça s'apprend peu à peu. Il faut lire beaucoup, il faut être patient, faut être. Certains Wikipédiens vont en bibliothèque. Moi, je suis allée à la bibliothèque pendant des années. Je disais même, si vous avez quelque chose à vérifier sur tel ou tel sujet, je suis à la bibliothèque toute la journée. Demandez-moi, je peux chercher n'importe quelle revue incroyable ou livre introuvable aujourd'hui. Je vérifierai vos sources.
D'accord. Donc, tu parlais effectivement de ces différentes personnes qui contribuent. L'un des derniers points principe fondateur dans Wikipédia, c'est le savoir-vivre dans ce projet collaboratif. Donc ça, c'est un point essentiel parce que, comme tu le dis, les contributeurs, les personnes qui contribuent viennent de profils très différents et des fois peuvent avoir aussi d'autres objectifs, simplement que la partie encyclopédie libre, qui devrait normalement être effectivement l'objectif principal. Donc ce savoir-vivre, il s'exprime comment, en fait, ces règles de savoir-vivre? Il y a des règles précises ou... Comment ça s'exprime ?
Tout à fait. Alors, déjà, il faut réaliser, par exemple, la Wikipédia en langue française, donc la Wikipédia francophone, c'est une petite ville, c'est 18 000 personnes. Donc, il faut forcément qu'ils viennent d'horizons très, très alors, divers.
Quand tu dis que c'est une petite ville par rapport à... Alors, prenons les États-Unis. Est-ce que tu sais combien il y a de personnes qui contribuent ?
Sur la Wikipédia anglophone, ça doit être 50 000. Mais...
D'accord, ok.
Mais elle est anglophone, elle n'est pas seulement américaine.
D'accord. Donc, parce que 18 000, ça ne paraît pas forcément petit, mais bon. Peut-être qu'à l'échelle de Wikipédia, c'est petit.
Non, je disais une ville de taille moyenne pour la France, par exemple. Mais donc du coup, forcément, et comme les personnes viennent d'horizons différents, il peut y avoir un grand universitaire qui collabore avec un adolescent, par exemple. Donc il faut tout un tas de règles parce que c'est vrai qu'il y a l'aspect collaboratif est très important. Et malheureusement, on le voit régulièrement, il y a des bons Wikipédiens qui ont tout un... qui seraient très utiles à l'encyclopédie pour partager leurs connaissances, mais qui sont incapables d'accepter de collaborer avec d'autres personnes qui essayent de s'approprier les articles. Donc il y a tout un tas de règles, d'us et coutumes qui se sont mis en place pour que les gens puissent collaborer et s'entendre même en étant très, très différents et de points de vue divers et variés.
Oui, parce que ce que tu dis est intéressant, parce que c'est vrai que le fait de retrouver quelqu'un qui est un spécialiste, une personne qui est spécialiste d'un sujet, commencer à débattre, à discuter sur le contenu d'une page avec une personne qu'elle ne connaît pas et qui est peut-être jeune ou qui peut-être dans son esprit manque de connaissances, c'est une remise en question, en tout cas personnelle. Il faut pouvoir dialoguer. Donc on peut être très bien expert dans son domaine et sans être capable de dialoguer avec les autres pour contribuer. Et c'est quand même, Wikipédia, c'est une encyclopédie collaborative, libre mais collaborative. Alors j'ai une question plus personnelle. Comment vous êtes venue, vous, à Wikipédia, Nadine?
Ah, comment j'y suis venue
Qu'est-ce qu'était le déclic Tu t'en souviens?
Mon horreur des fautes d'orthographe, je crois. Il me semble que les premières modifications, c'était, ça me démangeait de venir corriger. Je voyais une faute dans un texte, parce que je la consultais, bien sûr, hein, l'encyclopédie, déjà. Elle était vraiment petite à ce moment-là. Beaucoup d'ébauches, beaucoup d'articles très, très courts. Mais on sentait quand même ces articles très, très courts. Ils existaient, ils avaient ce mérite d'exister. On sentait le potentiel qui était là. Et oui, peut-être c'est ça au départ. Et puis, des références. Il se trouvait aussi qu'à l'époque, je travaillais comme traductrice d'un grand érudit. Et donc, j'étais plongée dans des domaines... d'érudition, oui, enfin qui était merveilleux, mais que je découvrais. J'apprenais chaque jour, chaque page que je traduisais, j'apprenais plus qu'en une année de fac. Et puis, j'avais envie de transmettre. Je me disais, mais c'est fou, parce que ça va être dans un livre, bon, je vais le traduire, ça va être... qui va acheter ça? Personne, ça va pas être lu, ça va s'empoussiérer quelque part, alors que c'est formidable. Ah bon, cet auteur existait, et puis, etc. Enfin, l'envie de faire connaître plus.
D'accord.
Et puis c'est assez, alors plus égoïstement, c'est assez valorisant, en fait. On est content, on est fort, même si c'est une petite chose, même si c'est un petit paragraphe, même si c'est une petite phrase, si on est content de soi.
Que cette phrase soit sur l'encyclopédie, mais oui, ça apporte une satisfaction personnelle, oui, et ça c'est essentiel.
C'est très important.
Bien sûr.
Et puis ça va peut-être être traduit d'ailleurs, parce que Wikipédia, c'est pas en une seule langue, c'est mondial. Donc peut-être on va pouvoir ajouter une information à un article, et puis ça va être traduit dans je ne sais combien de langues, des langues tellement rares qu'elles n'ont presque plus de locuteurs. On a quand même des Wikipédias formidables pour ça. Certaines Wikipédias avec très très peu de contributeurs sont des réceptacles de la langue en ce moment. Y a des langues dans lesquelles il n'y avait pas de dictionnaire écrit. C'est un travail de... Oui, enfin, je suis très admirative du projet. J'ai pas perdu l'enthousiasme. Pour moi, c'est une cathédrale. C'est un endroit où on est tous, on n'est pas anonyme entre nous, parce que on arrive à se connaître. C'est une ville de 18 000 personnes. Enfin, moi, j'ai vécu en province, en France, une ville qui faisait beaucoup plus d'ailleurs que 18 000. On arrive à connaître le monde. Hein. J'ai commencé sur l'encyclopédie en 2008. Ça fait... Oui, on commence à connaître les personnalités, sans avoir besoin de connaître leur identité civile.
Exactement. Et Pierre-Yves, toi, comment tu es venu à Wikipédia ?
Alors, moi, je me souviens plus exactement, c'était en 2004. C'était durant l'été, au lieu de rédiger mon mémoire DEA pour aller en thèse ensuite, je m'ennuyais et j'ai commencé à améliorer les articles d'économie, donc ma passion. Et ce qui est marrant, c'est qu'au départ, je pensais ne pas avoir assez de diplômes. Et donc, je laissais des commentaires en page de discussion.
Pour qu'on comprenne bien, donc tu modifiais des pages ou tu rajoutais en discussion.
Je suggérais des améliorations.
Mais te sentant pas suffisamment à la hauteur, tu les suggérais simplement en disant « Quelqu'un d'autre de mieux placé que moi va intégrer ça dans la page principale », c'est ça ?
Oui. Comme quoi, la première étape, c'est d'oser modifier une encyclopédie. C'est vrai que le terme avoir appelé Wikipédia encyclopédie peut faire peur. Et même en ayant Bac plus 5, je ne me sentais pas capable et avoir le droit de modifier ce wiki qui était en libre accès en plus.
Alors, qu'est-ce qui a apporté le fait que tu t'es à un moment senti capable de modifier directement la page ? Est-ce que c'est parce que les gens ont mis en ligne tes propres modifications et t'ont dit « vas-y directement » ?
Je crois pas. J'ai été bien accueilli, puis après, assez vite, j'ai vu que j'étais en fait plus diplômé et plus qualifié que les autres Wikipédiens. Et donc, il fallait que je me mette à modifier, à améliorer l'encyclopédie.
D'accord. C'est beau ce que dit Pierre-Yves, parce que c'est une forme de respect aussi. Moi aussi, j'ai beaucoup hésité. Bon, au départ, j'avais peur qu'on voit mon adresse IP.
Alors, ton adresse IP, c'est l'adresse de la machine depuis laquelle tu te connectes. Donc, tu avais peur, pourquoi pas ?
Parce que je n'avais pas choisi de pseudo. J'avais aucune idée du pseudo à prendre, d'ailleurs. Et chaque fois que j'allais pour modifier, on me disait « Attention, on va voir votre adresse IP ». Et là, j'imaginais qu'on allait me tracer, qu'on allait savoir qui j'étais. Donc, un jour, j'ai finalement créé un compte avec un bon pseudonyme. Et puis... mais j'osais pas, hein. Ça a duré des semaines. Je regardais, j'ouvrais, je voyais les articles après modifiés, je voyais l'apparence que ça avait en Wikicode, parce que maintenant, il y a un éditeur visuel. c'est quand même beaucoup
plus facile. Oui, on n'est plus obligé de saisir manuellement les codes wiki pour modifier la page. Il y a un éditeur visuel qui permet de mettre en gras, par exemple, en sélectionnant le texte, en cliquant sur...
Oui, comme si on était dans un traitement texte, un petit peu. Oui, c'est devenu plus simple. Mais au départ, on ouvrait et puis on voyait des signes un peu bizarres, un peu étranges. Moi, je ne suis pas informaticienne du tout. Je trouvais ça un peu étrange. Alors, j'observais, j'allais voir un autre article, je regardais comment c'était fait. Enfin, j'ai beaucoup hésité. Il y a une forme de respect, oui. Du travail des autres, de ce qui est déjà écrit.
Bon, c'est très intéressant. On va justement essayer, après la pause musicale qu'on va faire, d'entrer un peu plus dans le détail, justement, pour les personnes qui, comme toi, quelque part, se disent « j'ai un peu peur de modifier, d'utiliser ce fameux bouton modifier ». On va en parler un peu plus en détail juste après la pause. Donc, la pause musicale, on va écouter un groupe qu'on a déjà écouté dans l'émission, mais qui a eu un grand succès, enfin, en tout cas, vu les retours qu'on a eus. Le groupe s'appelle Kylie Moss, et le titre s'appelle « The Next Market Day ».
Cause commune.
And they gone to Cumber, markets to learn. She went for her mummy, three hides of fine yarn. She met with a young lord down the highway, and it made this young lady too dirty and stray. Sit down beside me, I mean you no harm. Sit down beside me, there is new tune to learn. Here is Trigginins, your mummy to pay. So lay by your young till the next market day. They sat down together, the grass it was green, the day was the fairest that ever was seen. The look in your eyes beats the morning of May. I could sit by your young till the next market day. Sit down beside me, I mean you no harm. Sit down beside me, there is new tune to learn. Here is Trigginins, your mummy to pay. So lay by your young till the next market day. Sit down beside me, there is new tune to learn. Here is Trigginins, your mummy to pay. So lay by your young till the next market day.
Vous êtes de retour, vous êtes toujours plutôt sur Libre à vous, sur Radio Cause Commune 93.1 et sur causecommune.fm. Nous venons d'écouter donc Kylie Moss, le titre s'appelle The Next Market Day. Et si je me souviens bien, c'est un groupe belge qui lui aussi tourne comme demi-sel. Donc je vous encourage à aller les voir aussi sur scène. Donc nous sommes de retour pour continuer notre sujet sur Wikipédia, donc toujours avec Pierre-Yves Baudouin et Nadine Lelirzin, donc de Wikimedia France, et on expliquera tout à l'heure ce qu'est Wikimedia France. On va poursuivre d'abord sur Wikipédia et ce fameux bouton modifié, cette crainte de vouloir contribuer à Wikipédia. Alors, j'ai envie de dire, comment une personne qui est sur une page Wikipédia, sur laquelle elle peut se dire, tiens, il y a des fautes d'orthographe, même s'il y en a beaucoup moins maintenant, hein, évidemment, mais peut-être des améliorations à apporter, comment cette personne peut faire? Est-ce qu'il y a des compétences particulières à avoir, techniques ou autres? Comment on peut s'y mettre pour contribuer à Wikipédia? Qui veut intervenir là-dessus en premier ? Pierre-Yves.
Je vais commencer. Ce qui est conseillé quand on est un nouveau contributeur, c'est d'améliorer un article, ne pas commencer par créer un nouveau sujet. En fait, ce qu'il faut garder en tête, c'est que le travail d'encyclopédiste est un travail de synthèse. Donc, on ne veut pas l'avis des Wikipédiens, on ne veut pas s'ils sont fans de foot ou de musique ou d'extrême-gauche, par exemple. Non, ils doivent synthétiser les ouvrages qui font référence ou les articles de presse qui font référence sur le sujet. Donc, c'est ça la principale qualité, en fait, c'est savoir faire de la recherche bibliographique, faire le tri entre la bonne et la mauvaise presse, les fake news et le travail universitaire de qualité. Et puis ensuite, synthétiser l'information sans le plagier. Là, c'est là où ça peut un peu
la devenir difficulté, peut-être.
Complexe. Mais il faut bien savoir aussi, c'est que la communauté fait un effort pour documenter l'aide. Elle n'est pas forcément un jour, hein, comme toutes les communautés du libre ont ce problème. Mais il y a tout un tas de pages qui permettent d'apprendre à contribuer petit à petit à Wikipédia. Il y a aussi des vidéos. Au sein de l'association Wikimedia France, on a fait un MOOC.
Donc un MOOC, c'est quoi ?
C'est un cours massif en ligne, enfin c'est une sorte de vidéo interactive qui permettent d'en savoir un peu plus sur la façon de contribuer à Wikipédia.
C'est une formation en ligne à base de vidéos et d'autres outils, c'est ça ?
Oui.
D'accord. Et j'en profite pour préciser donc, que sur la page Wikipédia, comme tu le dis, en fait, les premiers liens qui apparaissent, c'est des liens aidant à contribuer, donc soit en vidéo, soit en texte, les questions-réponses les plus fréquentes. Donc voilà, tout de suite, on est dans le bain. Si on a envie de contribuer, on va sur wikipedia.fr et on n'utilise pas un moteur de recherche pour rechercher quelque chose et arriver sur Wikipédia. Hein. On va directement sur wikipedia.fr et ensuite, on suit les liens qui permettent de contribuer. Je te laisse poursuivre.
Oui, c'est la particularité. On essaye, même si on a un ratio très, très disproportionné entre lecteurs et rédacteurs de l'encyclopédie. Parce que, par exemple, à l'heure actuelle, en France, il y a 30 millions de visiteurs uniques par mois, et la Wikipédia francophone est constituée de 18 000 personnes. Mais la communauté essaye, idéalement, on aimerait que chaque lecteur devienne aussi contributeur de l'encyclopédie. Donc ça peut commencer, on peut commencer par juste corriger des petites fautes d'orthographe ou des petites erreurs factuelles de date, ou de rajouter un ouvrage, mettre à jour l'article aussi. L'article peut avoir quelques années, peut commencer à vieillir, et il manque des informations sur la biographie de la personne, ou sur... Un bon conseil, en fait, c'est de commencer par ses passions, en fait. C'est là qu'on...
Les sujets où on se sent à l'aise, justement, pour pouvoir contribuer.
Oui. Donc, soit, en fait, parce que les Wikipédiens estiment que tout le monde a quelque chose, un savoir à apporter, soit du point de vue de sa formation, soit ses passions, si on fait de la guitare ou du chant, ou on joue à un sport, soit ses lectures, soit ses études, soit le village ou la ville où on a grandi, etc. Donc ça, forcément, on a quelque chose à apporter à l'encyclopédie, parce que maintenant, il y a plusieurs millions d'articles déjà créés. Donc, vous trouverez forcément un sujet qui vous intéresse et sur lequel vous avez des choses à apporter et vous êtes capable de synthétiser de l'information, soit qui se trouve ailleurs sur Internet, si elle est sous licence libre. Vous pouvez carrément la copier-coller, si la licence est compatible avec celle de Wikipédia, soit sinon aller en bibliothèque pour synthétiser ces informations.
Avant de passer la parole à Nadine qui hochait la tête et qui veut donc forcément intervenir, je vais citer le cinquième principe fondateur de Wikipédia. Donc là, je vais lire. Hein. Wikipédia n'a pas d'autres règles que les cinq principes fondateurs énoncés sur la page. Et ça se poursuit par « N'hésitez pas à être audacieux dans vos contributions puisque l'un des avantages de pouvoir modifier Wikipédia est que tout n'a pas à être parfait du premier coup. » C'est le droit à l'erreur dont tu parlais tout à l'heure, Nadine.
Exactement. C'est très important. On ne peut pas faire de grosses bêtises, en fait, sur un wiki, puisque dans l'historique, on peut revenir très facilement à la version précédente ou encore celle d'avant. On ne fait rien d'irréparable. Si on vient et qu'on fait les choses de bonne foi, quelqu'un va venir derrière et améliorer ou donner un conseil. Il y a des gens de très très bonne volonté. Par exemple, il y a un service, je ne devrais pas dire ça, mais d'accueil des nouveaux.
Explique-nous ça.
L'accueil des nouveaux, ils se proposent, ce sont des Wikipédiens ou des Wikipédiennes qui se proposent marins, parrains, marraines des nouveaux. Si vous avez envie d'être encadré, mais ce n'est pas du tout une obligation non plus. Le Wiki est très transparent, c'est une société panoptique, comme décrivait Foucault, c'est cette société où tout le monde peut voir tout le monde. Tout ce qu'on écrit est vu presque à la seconde. Dès qu'on appuie sur publier, quelqu'un regarde, peut-être quelqu'un ne regarde pas, on ne sait pas. On peut aussi travailler dans son coin et puis ne rien demander à personne, c'est tout à fait faisable. Mais on peut aller demander de l'aide. Et là, il y a vraiment des gens de très bonne volonté. Ils font ce qu'ils peuvent dans les sujets qui les concernent ou qui les intéressent, ou le temps qu'ils ont à y consacrer aussi. C'est du bénévolat, ça prend beaucoup de temps quand même.
Et comment se passe cet échange? C'est par courriel? C'est sur des pages wiki spéciales?
Non, tout se fait sur le wiki.
Tout se fait sur le wiki, d'accord.
Tout se fait sur le wiki. On peut passer par un échange plus privé. Enfin, ça, certaines personnes le font peut-être. Mais non, tout se passe visiblement, soit sur la page discussion d'un utilisateur, la page de discussion d'un article, le lieu de rencontre d'un projet. Vous pouvez, par exemple, vous intéresser à l'histoire militaire et puis vous retrouver, je ne sais plus comment ça s'appelle, le bistrot de l'histoire militaire, mais enfin, il y a quelques contributeurs, contributrices qui s'intéressent à ce sujet et qui seront ravis de vous accueillir si vous avez une passion pour ce sujet-là.
D'accord, donc ça, c'est l'onglet discussion qu'il y a sur toutes les pages Wikipédia.
Mais surtout, ce qu'il faut savoir, c'est facile, en fait. Il ne faut pas hésiter. Et puis, on a tous quelque chose à apporter. On a l'histoire des sources, d'aller en bibliothèque, etc. Il ne faut pas s'arrêter à ça, parce qu'on dirait qu'on sort de la faculté, puis qu'il y a un prof qui nous demande d'aller faire des recherches, je ne sais quoi. Ce n'est pas vrai. On peut aussi avoir un monument historique dans sa commune de 200 habitants, la croix, le calvaire, je ne sais quoi, et qui n'est toujours pas illustré sur Wikipédia. On peut prendre la photo avec son téléphone. On essaie de la faire nette plutôt que floue, c'est mieux. Mais ça va documenter. On a le droit, on fait soi-même la photo, on a le droit de la poser. On a déjà moins le droit d'aller prendre un livre paru sur le sujet et puis de prendre la photo du photographe, même si elle est magnifique, puis de la mettre. Ça, on n'a pas le droit. On doit mettre des choses qui sortent de nous. Mais ça peut être des très petites choses. Je me rappelle un jeune garçon qui contribuait sur le catch et qui était dyslexique. Et il avait vraiment un enthousiasme à communiquer ce qu'il savait sur le catch. Ça le passionnait complètement. Qui revenait sans arrêt. Il fallait passer derrière lui, il fallait le corriger. Bon, c'était un peu fastidieux pour ceux qui suivaient les articles. Mais c'était merveilleux de voir à quel point son envie de partager passait au-delà de ce handicap qu'est la dyslexie. Enfin, tant pis, ça fait rien, c'est dyslexique, mais j'y vais parce que je veux trop le dire. Il faut que je le dise.
D'accord. Là, on est sur l'aide, on va dire, en ligne, la contribution en ligne. Est-ce qu'il y a des rencontres physiques entre Wikipédiens et Wikipédiennes, notamment en France? On va parler que de la partie française.
Oui, notamment là, à l'heure actuelle, le mois de mars, il y a tout un tas d'activités parce que c'est le mois de la contribution francophone qui a lieu donc une fois par an, au mois de mars. Donc, à l'heure actuelle, il y a un peu plus de 50 ateliers de prévus dans 12 pays différents de la francophonie. Et notamment, là, en France, il y a énormément d'activités. Par exemple, vendredi prochain, à l'UNESCO, il va y avoir un très grand atelier pour un peu féminiser l'encyclopédie.
Qu'est-ce que ça s'appelle féminiser l'encyclopédie? C'est féminiser les contributions des personnes qui contribuent ou...
Il y a les biais dans les deux sens. Il y a le contenu. Enfin, ouais. Évidemment, il y a beaucoup moins de biographies de femmes que d'hommes. Et aussi, au sein de la communauté, malheureusement, on n'a pas les chiffres exacts parce qu'on ne demande pas trop d'informations personnelles. On ne collecte pas trop de données personnelles sur les contributeurs ou contributrices. Mais les chercheurs qui ont fait des sondages estiment autour de 15-20% de femmes qui contribuent à Wikipédia. Et donc, on aimerait un peu diversifier cela. Et donc, il y a tout un tas d'ateliers. Et en France, ces activités sont réunies sous le nom de les ateliers Les 100 pages, qui ont lieu un peu partout en France, dans 5 ou 6 villes, je crois, une fois par mois. Donc, n'hésitez pas à faire une recherche sur votre moteur de recherche préféré. Et voilà, et à vous rendre dans ces ateliers. Ça permet de, aussi de rencontrer des Wikipédiens, des Wikipédiennes expérimentés, confirmés, qui vont vous aider. Parce que des fois, c'est vrai que les premières étapes peuvent être un peu plus compliquées. Et puis, on a toujours des questions. Et puis, c'est une façon conviviale de rédiger des articles. Moi, le week-end dernier, je suis allé à un atelier, par exemple, pour rédiger Wikipédia.
Oui, ce qui permet aussi donc, une rédaction collaborative de visu, en fait, dans la même pièce, quelque part. Donc, ce qui complète la collaboration naturelle de Wikipédia sur le site. Donc ça, c'est des événements donc, physiques. Et donc, il y a des personnes spécialistes Wikipédia, donc des Wikipédiens ou Wikipédiennes, c'est ce qu'on a, comme ça qu'on les appelle, donc qui vont aider les personnes à faire quelque part leur première contribution ou des contributions un peu plus importantes. Par exemple, je suppose que, par exemple, il est plus difficile de créer une nouvelle page sur un sujet que de modifier une page qui existe déjà.
Oui, ça je le déconseille vraiment pour les débutants, les grands débutants qui commencent à modifier l'encyclopédie, parce qu'il y a notamment ce qu'on appelle des critères d'admissibilité pour s'assurer de la fiabilité du contenu de Wikipédia. En fait, tout n'est pas autorisé parce que comme je le disais, c'est surtout un travail de synthèse. Donc s'il n'y a rien à synthétiser, là on va tomber dans ce qu'on appelle le travail inédit, la recherche originale, et en fait le Wikipédia ne doit pas se substituer aux journalistes ou aux chercheurs parce que sinon il n'y aurait aucun moyen de vérifier l'information. C'est pas une encyclopédie signée contrairement à Universalis où là c'est un spécialiste qui engage son nom, sa notoriété et n'a pas forcément besoin de lister ses sources. Lorsqu'il rédige un article sur Wikipédia, en fait, vous allez tout en bas de l'article, il y a une grande section références, qui permettent de vérifier toutes les informations qui sont contenues dans cet article.
C'est vrai que la base de source est très importante, et ça me fait penser aussi que tu parlais de biographie tout à l'heure, sauf erreur de ma part, on ne peut pas créer sa propre page pour faire parler de soi sur Wikipédia.
C'est fortement déconseillé.
Donc, je dis ça parce que j'ai eu des questions récemment en me disant, tiens, pourquoi telle personne n'a pas de page ? Est-ce que la personne pourrait le créer ? Et je lui ai expliqué, non, ce n'est pas le mode de fonctionnement.
Ça étonne encore des gens, mais si on pense plutôt à des politiciens ou des entreprises, on ne concevrait pas que Renault rédige la fiche sur son entreprise ou que Carlos Ghosn modifie lui-même sa biographie.
Ah justement, j'ai une petite question, je ne pensais pas en parler, mais... Comment est géré ce genre de cas où une entreprise ou un responsable politique tente subrepticement de modifier sa page en se cachant derrière un pseudo, mais dont l'adresse IP en fait révèle que, par exemple, c'est le siège de telle entreprise ou de tel groupe politique ? Comment c'est géré en interne, ça ?
Alors, ça dépend du type de modification. Si c'est des modifications factuelles, notamment...
Alors, parle de modifications pas du tout factuelles, mais au contraire pour mettre en avant quelque chose ou en tout cas pour se faire de la pub ou autre.
Là, souvent, ça se passe mal parce que déjà, ils ne maîtrisent pas les codes de Wikipédia ou même le style d'écriture. Souvent, les services de communication de ces entreprises sont incapables d'écrire dans un style encyclopédique et vont forcément mettre en avant... Enfin, l'entreprise est forcément première sur son marché. On se retrouve avec plusieurs premiers sur le même marché, bien souvent. Donc, c'est assez facile. Et en plus, comme on parlait du droit d'auteur, souvent, ils se contentent de faire un copier-coller du site officiel de l'entreprise. Bien souvent, en fait, c'est des stagiaires à qui on demande. C'est des petits jeunes qui viennent de débarquer dans l'entreprise. Ils disent, tiens, toi, tu dois maîtriser Wikipédia, donc tu vas être chargé d'améliorer l'article. Y a aussi des points de vue. En fait, ils n'ont aucune considération pour l'histoire. Donc, ils ne s'intéressent pas du tout. Même si l'entreprise a un siècle, ils vont virer toute la partie historique.
Ah, ils vont carrément virer la partie... Ah oui, d'accord.
Donc, voilà. C'est très facile à détecter, en fait, ce genre de modification. Pareil pour les personnalités. Ces articles sont très surveillés. Ce qu'on appelle les biographies de personnes vivantes. Parce que là, c'est vrai qu'il y a beaucoup de problèmes de risques juridiques, de diffamation, tout ça, d'insultes. Donc, ce qu'on appelle les patrouilleurs, c'est les Wikipédiens qui vont surveiller un peu l'encyclopédie en temps réel. Là, si on regarde, il doit y avoir quelques dizaines de Wikipédiens bénévoles qui protègent l'encyclopédie. Parce que c'est un bien commun et en fait, elle est vandalisée. Soit des vandalismes bêtes et méchants, soit des gens un peu plus malhonnêtes. Et donc, il faut protéger ce bien commun.
D'accord. Tu parlais des personnalités vivantes. Je suppose que ça arrive aussi sur les personnalités qui viennent de récemment mourir. Et si je me souviens bien, il y a un bandeau quand il y a une personnalité qui vient de mourir. Alors, je ne sais plus quel texte est expliqué, mais justement en disant faites attention, les pages vont être modifiées rapidement, il peut y avoir des choses fausses, etc. Quoi. Alors le temps passe vite à la radio. Ça me fait penser que tu viens de parler du mot important bénévole. Mais il n'y a pas que des bénévoles. Alors, je précise que tous les deux, donc, vous êtes bénévoles au sein de Wikimedia France. Et donc, justement, ça va nous permettre de parler un petit peu de la structure qui, pas entre guillemets, qui gère, je ne sais pas, vous emploierez le terme que vous voulez, mais derrière, en fait, Wikipédia, il y a aussi une fondation, donc Wikimedia, donc Fondation US, et puis il y a des structures locales. Et donc, vous êtes Wikimedia France. Alors, deux questions. À quoi sert la fondation américaine Wikimedia? Et à quoi sert la version, on va dire, française, Wikimedia France, dont vous êtes respectivement président et secrétaire? Donc, qui veut commencer? Nadine? Non? Toujours Pierre-Yves?
Oui, Nadine. Pourquoi pas. La fondation américaine gère les serveurs. Ça, c'est une différence fondamentale. Donc, ce sont des données énormes qui circulent sur toute la planète. Eux gèrent les serveurs.
Donc les machines physiques, les grosses machines physiques qui hébergent les données dans plusieurs coins de la planète.
Exactement, qui sont des champs d'ordinateurs, en fait, à droite à gauche. Et les chapitres, ils appellent ça chapitres, enfin bon, les associations locales sur la planète, soit par soit géographique, donc nous, Wikimedia France, ou bien des associations locales thématiques, et puis plus transversales, qui peuvent aller d'un pays à l'autre. Enfin, ça peut être sur un sujet, un thème. Ces associations, en fait, demandent des subventions, en quelque sorte, on va dire, pour fonctionner. Éventuellement, peuvent en obtenir de la fondation. Et surtout, la première chose, c'est montrer la participation qu'on a dans les projets pour obtenir le droit de s'appeler Wikimedia quelque chose. Wikimedia, groupe d'utilisateurs, Wikimedia France, Wikimedia Deutschland, enfin, etc. Tout ce monde-là travaille aux mêmes choses, finalement. Mais la partie fondation ou la partie association n'ont aucune responsabilité éditoriale.
Donc ça, c'est important de le préciser. Le contenu est produit par les Wikipédiens et Wikipédiennes.
Exactement. Finalement, on a aucun droit, enfin, si on est wikipédien soi-même, bien sûr, on peut aussi écrire dedans, heureusement, c'est pas interdit, mais on n'a vraiment aucune responsabilité là-dedans, quoi. Ça... Et puis aucun mérite. Le mérite, c'est les wikipédiens, les wikipédiennes, enfin, c'est ceux qui bossent tous les jours, les patrouilleurs, les créateurs d'articles, toutes les différentes catégories de wikipédiens, les correcteurs d'orthographe.
Alors, tu as dit que Wikimedia France, avant de venir sur Wikimedia France, tu as dit que la fondation Wikimedia gérait les serveurs, mais gère aussi, je suppose, les problèmes juridiques, parce qu'il peut y avoir quand même pas mal de problèmes juridiques. Et c'est sans doute aussi un des rôles que joue Wikimedia France, parce que vous avez une équipe salariée à Wikimedia France. Je ne sais plus combien de personnes, mais tu vas me dire. Et donc, quel est le rôle de Wikimedia France, donc à la fois sur les aspects juridiques, d'un point de vue accompagnement des personnes qui veulent débuter, peut-être aussi les relations avec les pouvoirs publics, notamment français. Donc, Pierre-Yves Baudouin.
Alors, le gros volet juridique, en fait, est géré par l'hébergeur, donc la Wikimedia Foundation. Quand il y a des problèmes concernant le contenu hébergé sur les sites Wikipédia. Mais c'est vrai que l'autre aspect important, notamment de plaidoyer et de point de contact avec les autorités et avec le législateur, est assuré en France par Wikimedia France. Et donc, notamment, il y a quelques semaines, j'étais intervenu sur la directive droit d'auteur.
De notre émission, je précise.
Donc voilà, c'est tout un tas de... En fait, les affiliés, les organisations Wikimedia ont un rôle un peu de représentation. C'est vrai que, comme le rappelait Nadine, Wikipédia est un site autogéré qui fonctionne de lui-même. Mais après, il a fallu avoir un peu des représentants ou des personnes qui permettent d'expliquer le fonctionnement de cette encyclopédie, notamment aux autorités. Et donc, c'est notamment mon travail au sein de Wikimedia France. Donc, à l'heure actuelle, on a 9 salariés qui montent des projets, principalement dans deux axes, l'éducation et la culture. dans le but de favoriser la contribution, comme je le disais, que les internautes deviennent aussi acteurs et se mettent à modifier l'encyclopédie, soit un particulier de chez lui. Donc on essaye de faciliter la contribution, notamment on a développé le MOOC là, qui s'appelle Wikimook, soit les institutions aussi qui ont beaucoup de contenu, soit dans le domaine public, soit on les incite à adopter les licences libres. Comme par exemple les archives nationales qui ont basculé il y a quelques années. Et donc voilà, on accompagne ces institutions parce que même quand une fois qu'elles ont fait l'étape juridique, donc déjà de convaincre leur département juridique et leur hiérarchie de choisir les licences libres, après il y a un besoin quand même de formation. Ce sont des nouvelles pratiques, le travail collaboratif, la contribution à Wikipédia ou aux autres projets frères du mouvement Wikimedia. Donc elles ont besoin d'être accompagnées. Et donc c'est là où Wikimedia France intervient.
D'accord, donc vous accompagnez à la fois les personnes individuelles et puis les institutions françaises. Et est-ce que vous ressentez un progrès de ce côté-là par rapport aux institutions françaises ? Une meilleure participation des différentes institutions françaises, que ce soit les bibliothèques ou autres?
Oui, énormément. Moi, j'étais déjà président il y a 10 ans. Et le plus frappant, c'est dans le domaine de l'éducation nationale. L'éducation nationale voulait nous voir disparaître. Ils nous voulaient essayer de faire l'autruche et de ne pas parler de Wikipédia pendant pas mal d'années. Et donc, en fait, maintenant, c'est incontournable. Et ils préfèrent encadrer
l'usage de Wikipédia, notamment par les élèves, dont je parlais tout à l'heure.
Donc, on a notamment un projet avec notre partenaire du CLEMI pour, dans le cadre de l'éducation aux médias et à l'information. Maintenant, c'est les fameux fake news. Mais en fait, ce travail existe depuis longtemps, et cette problématique aussi. Et donc, on peut maintenant utiliser Wikipédia comme support pédagogique, en fait, un peu plus sexy, ou qui va intéresser les jeunes pour les éduquer au traitement de l'information, à détecter des infox, etc. Et donc, il y a la même chose aussi dans le domaine de la culture. Et très récemment, par exemple, je reviens à l'éducation, il y a des parlementaires qui ont même proposé un amendement Wikipédia pour inciter les enseignants à contribuer, à faire contribuer leurs élèves et à enseigner Wikipédia. Et on n'était même pas impliqué, Wikimedia France n'était même pas impliqué dans
C'est pas vous qui avez suggéré ces amendements. Donc, je suppose que c'est dans le projet de loi pour une école de la confiance. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'on a le même retour d'expérience dans le logiciel libre, parce qu'il y avait des amendements priorités au logiciel libre dans ce projet de loi qui n'étaient pas issus d'une action de l'April ou d'autres personnes, simplement des parlementaires qui ont compris depuis quelques années cette importance et qui ont donc déposé cet amendement. Malheureusement, je pense que l'amendement Wikimedia a dû être retoqué, mais je précise que le projet de loi va arriver au Sénat très bientôt et que le Sénat montre des fois des capacités d'innovation et d'avancée beaucoup plus importantes que l'Assemblée nationale. Donc on verra ça. Le temps passe vite, on va bientôt terminer. Je vais relayer une question qu'il y a eu tout à l'heure sur le salon web. Alors la question, c'est: Wikipédia a-t-elle remplacé les encyclopédies papier, d'après vous?
Oui, probablement.
J'aurais tendance à dire.
Oui, il me semble d'ailleurs, au point de vue de la fiabilité, Wikipédia est finalement plus fiable. Il y a eu des études...
Oui, c'est un point important, la fiabilité, parce que ça a été souvent mis en cause.
Il y a des études très, 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 très poussées et puis très étonnantes sur la Wikipédia anglophone, notamment au niveau de la médecine, par exemple, je pense. La médecine, les articles de médecine ne semblaient pas... ça semble un sujet délicat, sensible. Et on s'est aperçu, cette étude a montré qu'il y avait moins d'erreurs, parce que finalement, il y a une mise à jour continuelle des sujets, moins d'erreurs que dans une encyclopédie papier qui est figée. On pourrait dire sur des sujets plus littéraires qu'il y a moins de parti pris, puisque c'est écrit collaborativement. On n'a pas une personne qui vient et qui s'approprie un sujet. Lisez le Larousse du 19e siècle. Je l'ai encore chez moi, je ne sais pas trop ce que je vais en faire. mais dans cette encyclopédie, parfois, certains articles sont vraiment à mourir de rire. On sent bien qu'il y a une personne qui l'a écrit, puis personne n'est venu lui dire « Attends, t'as écrit n'importe quoi ». Donc oui, on remplace. Oui.
D'accord. Le sujet va se terminer, parce que le temps passe. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, peut-être pour encore plus encourager les personnes à devenir contributrices sur Wikipédia ?
Moi, je voudrais ajouter une chose. Bien sûr que le but et ce qu'on aimerait, c'est que les gens contribuent. Il y a cet onglet « Modifier », je vous assure. Modifier, essayer de modifier. allez-y, vous avez tous quelque chose à apporter. Mais il y a aussi bon, ceux qui resteront lecteurs, et merci de nous lire. Merci, continuez à nous lire et on va continuer à bosser pour vous. Mais soyez quand même bien conscients que cette encyclopédie est modifiable à tout instant. Et gardez votre esprit critique. Nous, en tant que Wikipédiens, on essaie d'avoir un esprit critique, on essaie de faire attention à nos sources, les comparer, les peser. Et vous, en tant que lecteur, votre mission, c'est aussi de nous mettre en cause. C'est aussi de faire attention, de comparer, de revenir, d'aller dans ce bas de page-là qui est les références et d'aller voir les sources, finalement. Voilà. Je crois qu'on a vraiment besoin d'esprit critique, tous. Ça fait défaut.
D'accord. Pierre-Yves, est-ce que tu veux ajouter quelque chose ?
J'évoquerai peut-être un projet en cours qui est destiné à mettre un Wikipédia en résidence dans une institution culturelle. Donc ça s'appelle le Wikipédia en résidence. On est en train de faire un financement participatif pour financer un poste aux Archives nationales. Donc comme je l'expliquais, les Archives nationales ont énormément envie de collaborer avec les projets Wikimedia, mais ont besoin d'être formés. Tout leur staff a besoin d'être accompagné dans ça. Et donc voilà, on est en train de collecter de l'argent pour envoyer quelqu'un qui non pas va pas être payé pour rédiger les articles de Wikipédia, mais qui va former le staff, l'équipe salariée des archives, afin qu'ils le fassent eux-mêmes après, et notamment après le départ de ce fameux Wikipédia en résidence.
D'accord. Donc les Archives nationales à Saint-Denis ou
à Pierrefitte, oui.
À Pierrefitte, oui, excuse-moi. C'est juste à la limite. Bon, je précise, j'habite Saint-Denis, donc j'ai... Excusez-moi cette erreur, mais effectivement, c'est à Pierrefitte. Bah, écoutez, merci Nadine, donc le Lirzin, secrétaire de Wikimedia France, et Pierre-Yves Baudouin, président de Wikimedia France.